Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre programme avec le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'Indonésie a déploré les accusations des pays du Pacifique liées aux violations des droits de l'homme en Papouasie. Le commandant en chef des forces armées nationales de l'Indonésie, TNI, souligne que l'île de Natuna appartient à l'Indonésie. Grâce à la CEA, les exportations de l'Indonésie ne sont plus dépendantes de Singapour. L'exposition commerciale de l'Indonésie est promue au Qatar. Un supermarché indonésien était présent dans la ville d'Al-Khor au Qatar. Et enfin, le nombre de touristes européens à Bali a augmenté de 59,4%. Voici le journal complet. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déploré les accusations faites par des îles Salomon liées à la violation des droits de l'homme en Papouasie. Retno Marsudi, en marge de la 71e session de l'Assemblée générale de l'ONU, a affirmé que, dans la diplomatie, il y avait des choses qui ne peuvent pas être négociées. Selon elle, les accusations du gouvernement des îles Salomon ne sont pas fondamentalement parce que la participation active de l'Indonésie dans l'application des droits de l'homme n'ont pas été prouvées et ont été reconnues par le monde, comme par exemple l'Indonésie est un membre fondateur du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et l'initiateur de la Commission intergouvernementale des droits de l'homme de l'ASEAN. Retno Marsudi, au siège de l'ONU à New York, aux États-Unis, a déclaré lundi que l'Indonésie avait même ratifié 8 des 9 instruments principaux relatifs aux droits de l'homme. Tout est intégré dans le système juridique national par rapport aux îles Salomon qui viennent de ratifier 4 instruments. En outre, avec une telle démocratie dynamique et un engagement très élevé à la promotion et la protection des droits de l'homme à tous les niveaux, c'est presque impossible. Les violations des droits de l'homme sont passées inaperçues et sans être examinées. Auparavant, le premier ministre des îles Salomon, Manasseh Sogavar, lors d'un discours à l'Assemblée générale de l'ONU, a déclaré qu'il était préoccupé par les violations des droits de l'homme en Papouasie-Occidentale. Il a expliqué la nécessité d'un engagement constructif avec l'Indonésie et espère de collaborer avec l'Indonésie dans la lutte contre les violations des droits de l'homme en Papouasie-Occidentale. Le commandant en chef des forces armées nationales de l'Indonésie, TNI, le général Gatot Nurmantio, a déclaré que l'île de Natuna, située sur le territoire de l'Indonésie, donc elle appartient de la République unitaire d'Indonésie. Cela a été dit par Gatot Nurmantio lundi à Banyumas, Java Central. Il a souligné que la République unitaire d'Indonésie ne pouvait pas être négociée à nouveau, il est en temps et le prix fixé. Selon Gatot Nurmantio, TNI va construire la base aérienne de la force aérienne de TNI, la base de marine et la base de l'armée sur l'île située dans le nord de l'Indonésie. Selon lui, la construction de la base militaire de TNI sur l'île de Natuna est encore dans le processus. Il souhaite que la construction de la base soit achevée en 2 à 3 ans. L'île de Natuna est très stratégique car il est situé à proximité de la zone de la mer de Chine méridionale et possède les ressources naturelles, ce qui rend l'île contestée de nombreux pays comme le Vietnam, les Philippines, le Brunei Darussalam et la République populaire de Chine. La Chambre de commerce et d'industrie Kadin d'Indonésie a enregistré l'augmentation des exportations indonésiennes de 13,71% vers les pays de l'Asie hors de Singapour, la Malaisie et la Thaïlande cette année. L'augmentation des exportations a eu lieu dans 6 pays, à savoir les Philippines, le Brunei, le Vietnam, le Laos, le Myanmar et le Cambodge, de 5,02 milliards de dollars américains, d'être 5,70 milliards de dollars américains. Le président du comité permanent du développement des exportations de Kadin, Handito Juwono, à Jakarta, lundi, expliquait que la mise en œuvre de la communauté économique de l'ASEAN a l'impact de l'expansion des exportations indonésiennes. La dépendance des exportations d'Indonésie à Singapour sera réduite et remplacée par les exportations vers d'autres pays de l'ASEAN. Selon Handito Juwono, il encourage l'Indonésie de voir une possibilité de commercialiser vers d'autres pays de l'ASEAN tels que Singapour, la Malaisie et la Thaïlande. La délégation indonésienne dirigée par l'envoyé spécial du président pour le Moyen-Orient et l'organisation de la conférence islamique Alwi Shihab a promu l'exposition commerciale d'Indonésie 2016 au Qatar. La délégation indonésienne a rencontré le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Qatar, KWCI, Mohamed bin Ahmed bin Tawar Al-Kouari, et des hommes d'affaires au bureau de KWCI. Le ministre conseiller de l'ambassade d'Indonésie à Doha, Boy Darmawan, cité par Antara de Londres, a déclaré lundi qu'à cette réunion, il a exposé le potentiel et l'investissement des entreprises et a invité les hommes d'affaires qataris à assister à l'exposition commerciale de l'Indonésie 2016 tenue en octobre. Pendant ce temps, Mohamed Al-Kouari a bien accueilli les délégations économiques et commerciales de l'Indonésie. Il a affirmé la nécessité des hommes d'affaires indonésiens de renforcer les relations économiques et commerciales entre l'Indonésie et le Qatar en explorant directement les possibilités économiques et commerciales au Qatar. L'ambassadeur d'Indonésie au Qatar, Muhammad Basri Sidihabi, avec le professeur de l'Université de la Défense, ont inauguré l'ouverture de supermarché de l'Indonésie, Source of Fortune, dans la ville d'Al-Khor, à environ 80 km de la capitale du Qatar, Doha. Le ministre conseiller de l'ambassade d'Indonésie à Doha, Boy Darmawan, cité par Antara de Londres, a déclaré lundi, ce supermarché était le développement des affaires de l'entrepreneur d'Aceh en tant également la figure de diaspora indonésienne Mahdi Musa en coopération avec l'homme d'affaires du Qatar, Jumah Ismail Al-Bunain. L'ambassadeur Muhammad Basri a expliqué que l'ouverture du supermarché faisait partie de la mission de l'augmentation des exportations. Ce supermarché est également une place pour les entrepreneurs qui veulent élargir le marché au Qatar. Il espère que l'ouverture de ce supermarché peut améliorer la diplomatie économique au Qatar et intensifier la coopération économique entre l'Indonésie et le Qatar dans les domaines du commerce, du tourisme et de l'investissement. Ceci est conforme aux directives du président Joko Widodo qui donne la priorité à la diplomatie économique dans les relations entre les deux pays. Des touristes étrangers de l'Europe qui se rendent à Bali en été de cette année ont augmenté de 59,4% à partir de 76 822 personnes en juin 2016 et a augmenté de 122 455 personnes en juillet 2016. L'observateur touristique Dewa Nyoman Putra à Denpasar mardi a dit que l'augmentation des arrivées de touristes a montré les efforts du gouvernement et l'industrie touristique de promouvoir l'Indonésie, en particulier Bali, vers la région européenne n'est pas vaine. L'augmentation du nombre de touristes est aussi l'impact de la politique gouvernementale en Indonésie de donner des visas gratuits à un certain nombre de pays, y compris le soutien de scrutin propice. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Chers amis d'antenne, après le journal, maintenant vous pouvez écouter le commentaire ayant pour le titre « Espère pour Jakarta d'être meilleur et humain ». Jakarta, dans quelques mois, va effectuer une grande fête, à savoir l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de Jakarta pour la période 2017-2022. Jakarta, comme la capitale de l'État, devrait devenir un exemple pour les autres provinces du pays. Le succès ou l'échec sera également une évaluation sur l'Indonésie au jeu des autres nations. Pour Jakarta, c'est la troisième élection du gouverneur et vice-gouverneur qui est réalisée directement et utilise le système de vote. Cela fait partie des élections locales simultanément suivies par d'autres provinces en Indonésie. Il y a trois candidats qui participent à l'élection du gouverneur actuellement. Le titulaire du poste gouverneur Basuki Cahayapurnama, un ancien officier militaire Agus Harimurti Yudhoyono, qui est le fils de l'ancien président indonésien Susilo Bambang Yudhoyono, et l'ancien ministre de l'Éducation et de la Culture de l'Indonésie à l'époque du président Joko Widodo, à savoir Anies Baswedan. On espère que plus tard, la capitale du pays serait dirigée par un couple qui peut faire Jakarta un baromètre de l'économie du pays. De plus, le succès de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de Jakarta sera une référence et un paramètre du succès de la démocratie qui était fait jusqu'à présent. À cette fin, les élections locales actuellement devraient avoir lieu démocratiquement et pacifiquement, sans campagne noire qui défigure l'adversaire et de plus en utilisant les questions d'ethnicité, la religion et la race. Il y a beaucoup de problèmes dans la capitale de Jakarta qui ne sont pas faciles à résoudre. Quiconque conduit Jakarta sera sans aucun doute besoin de la coopération de toutes les couches de la société pour la coopération mutuelle à créer Jakarta étant meilleur et humain. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Vous écoutez la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire aujourd'hui. Le 27 septembre 1940, la signature du pacte tripartite par l'Allemagne, le Japon et l'Italie. Sur la base de ce pacte, les trois pays ont formé une alliance militaire et officiellement créé le bloc Axe dans la Seconde Guerre mondiale contre les Alliés. Ce pacte est une continuation du traité de défense germano-japonais de 1936 et le pacte de défense Japon-Allemagne-Italie en 1937. Ce pacte est la reconnaissance mutuelle sur les dirigeants des trois pays dans leurs régions respectives. Un Asie mené par le Japon, l'Europe dirigée par Nazis, l'Allemagne et l'Italie. Lorsque l'un des pays signataires du pacte est attaqué par les États-Unis, ils vont aider les uns et les autres. Dans la pratique, ce pacte est une alliance anti-américaine et rendre les relations entre le Japon, la Grande-Bretagne et les États-Unis se sont aggravées. Le 27 septembre 1945, la journée des postes et des télécommunications. Le 27 septembre 1945, la jeune génération de télégraphes postaux et téléphoniques a saisi le bureau central de la poste, télégraphe et téléphone à Bandung du gouvernement militaire japonais. Le 24 septembre 1945, l'un des leaders de la jeune génération de la poste, la télégraphe et téléphone, M. Sutoko a demandé à rencontrer le chef japonais du bureau M. Osada de négocier et insister que le Japon voulait abandonner honorablement la direction du bureau de poste, télégraphe et téléphone au peuple de l'Indonésie. Mais les pourparlers ont échoué. Le 26 septembre, les membres de la jeune génération de la poste, télégraphe et téléphone ont été déployés pour rechercher et collecter les armes. Le 27 septembre 1945, ils étaient prêts à prendre sur la place, soutenus par les gens qui étaient rassemblés sur la cour du sud du bâtiment. Ils ont entré dans le bureau qui était occupé par les Japonais. La prise de contrôle du bureau de la poste, de la télégraphe et de la téléphone des Japonais par la jeune génération, le 27 septembre est célébrée comme la journée des postes et des télécommunications. Le 26 septembre 1988, le Parti de la Ligue nationale pour la démocratie, ou NLD, dirigé par Aung San Suu Kyi, a été créé en Birmanie, au Myanmar. Lors de l'élection générale de 1990, ce parti a remporté 392 des 492 sièges, mais la junte militaire au pouvoir ne permet pas le parti de former un gouvernement. En 2010, le parti NLD est déclaré illégal et il doit être dissous. Mais un an plus tard, la NLD a été autorisée à nouveau d'être active et peut anticiper aux élections 2012 et 2015. La NLD a remporté une majorité de voix qui a ouvert la voie pour le premier gouvernement civil du pays dans les 54 dernières années. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel du titre de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « L'Indonésie a fait la campagne pour la candidature de membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies ». Le vice-président Youssef Kalla a dirigé la campagne pour la candidature de l'Indonésie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2019 jusqu'à 2020. La déclaration sur la campagne a été marquée par le battement des gongs par le vice-président Youssef Kalla dans le bâtiment de l'ONU siège à New York, les États-Unis, le 22 septembre 2016. La cérémonie a été tenue en organisant la représentation culturelle indonésienne assistée par des centaines de diplomates étrangers et le président de la Commission 1 du Parlement, Abdul Haris. Le vice-président Youssef Kalla estime que l'Indonésie est une plus grande chance de gagner. Le rival de l'Indonésie est de Maldives. À présent, il y a beaucoup de soutien d'autres pays. L'élection des membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2019 jusqu'à 2020 aura lieu en juin 2018. Le ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, devant des centaines d'invités à la majorité des ministres et des diplomates étrangers, a déclaré que l'Indonésie a rempli la condition principale pour élu un membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU 2019 jusqu'à 2020. L'Indonésie mérite de devenir un membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU parce que l'Indonésie est le quatrième pays le plus peuplé du monde, le troisième plus grand pays démocratique du monde et le plus grand pays musulman dans le monde. Par conséquent, l'Indonésie est la preuve que l'islam, la démocratie, la modernité et le renforcement des femmes peuvent être liés dans une harmonie. La ministre Retno Marsudi a déclaré qu'avec plus de 17 000 îles, qui sont habités par plus de 1300 groupes ethniques, l'Indonésie est un modèle pour la tolérance et le pluralisme, une valeur étant constamment projetée par l'Indonésie dans l'établissement des relations avec d'autres pays. L'Indonésie est active de développer la démocratie, entre autres à travers la mise en œuvre du Forum démocratique de Bali. Selon Retno Marsudi, l'Indonésie est le 10 plus grands contributeurs au maintien de la paix des Nations Unies. Le nombre de représentants indonésiens à l'étranger qui atteint 132 représentations peut aider l'Indonésie à comprendre bien la situation sur le terrain. En tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Indonésie jouera le rôle étant responsable et constructif. Avec un fonds comme ça, l'Indonésie veut devenir un membre non permanent du Conseil de la sécurité des Nations Unies pour la période 2019 jusqu'à 2020. L'Indonésie a besoin d'un soutien afin d'être un véritable partenaire pour la paix. La candidature de l'Indonésie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU reçoit le plein soutien des pays de l'ASEAN. Ce soutien ajoute l'optimisme de l'Indonésie devient un membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la quatrième fois. C'était la mise au point de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déploré les accusations faites par des îles Salomon liées à la violation des droits de l'homme en Papouasie. Retno Marsudi, en marge de la 71e session de l'Assemblée générale de l'ONU, a affirmé que, dans la diplomatie, il y avait des choses qui ne peuvent pas être négociées. Selon elle, les accusations du gouvernement des îles Salomon ne sont pas fondamentalement parce que la participation active de l'Indonésie dans l'application des droits de l'homme n'ont pas été prouvées et ont été reconnues par le monde, comme par exemple l'Indonésie est un membre fondateur du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et l'initiateur de la Commission intergouvernementale des droits de l'homme de l'ASEAN. Retno Marsudi, au siège de l'ONU à New York, aux États-Unis, a déclaré lundi que l'Indonésie avait même ratifié 8 des 9 instruments principaux relatifs aux droits de l'homme. Tout est intégré dans le système juridique national par rapport aux îles Salomon qui viennent de ratifier 4 instruments. En outre, avec une telle démocratie dynamique et un engagement très élevé à la promotion et la protection des droits de l'homme à tous les niveaux, c'est presque impossible. Les violations des droits de l'homme sont passées inaperçues et sans être examinées. Auparavant, le premier ministre des îles Salomon, Manasseh Sogavar, lors d'un discours à l'Assemblée générale de l'ONU, a déclaré qu'il était préoccupé par les violations des droits de l'homme en Papouasie-Occidentale. Il a expliqué la nécessité d'un engagement constructif avec l'Indonésie et espère de collaborer avec l'Indonésie dans la lutte contre les violations des droits de l'homme en Papouasie-Occidentale. Le commandant en chef des Forces armées nationales de l'Indonésie, TNI, le général Gatot Nurmantio, a déclaré que l'île de Natuna, située sur le territoire de l'Indonésie, donc elle appartient de la République unitaire d'Indonésie. Cela a été dit par Gatot Nurmantio lundi à Banyumas, Java Central. Il a souligné que la République unitaire d'Indonésie ne pouvait pas être négociée à nouveau, il est en tape et le prix fixé. Selon Gatot Nurmantio, TNI va construire la base aérienne de la force aérienne de TNI, la base de marine et la base de l'armée sur l'île située dans le nord de l'Indonésie. Selon lui, la construction de la base militaire de TNI sur l'île de Natuna est encore dans le processus. Il souhaite que la construction de la base soit achevée en 2 à 3 ans. L'île de Natuna est très stratégique car il est situé à proximité de la zone de la mer de Chine méridionale et possède les ressources naturelles, ce qui rend l'île contestée de nombreux pays comme le Vietnam, les Philippines, le Brunei Darussalam et la République populaire de Chine. La Chambre de commerce et d'industrie, CADIN d'Indonésie a enregistré l'augmentation des exportations indonésiennes de 13,71% vers les pays de l'Asie, hors de Singapour, la Malaisie et la Thaïlande cette année. L'augmentation des exportations a eu lieu dans 6 pays, à savoir les Philippines, le Brunei, le Vietnam, le Laos, le Myanmar et le Cambodge, de 5,02 milliards de dollars américains, d'être 5,70 milliards de dollars américains. Le président du Comité permanent du développement des exportations de CADIN, Handito Juwono, à Jakarta, lundi, expliquait que la mise en œuvre de la communauté économique de l'ASEAN a l'impact de l'expansion des exportations indonésiennes. La dépendance des exportations d'Indonésie à Singapour sera réduite et remplacée par les exportations vers d'autres pays de l'ASEAN. Selon Handito Juwono, il encourage l'Indonésie de voir une possibilité de commercialiser vers d'autres pays de l'ASEAN tels que Singapour, la Malaisie et la Thaïlande. La délégation indonésienne dirigée par l'envoyé spécial du président pour le Moyen-Orient et l'organisation de la conférence islamique Alwi Shihab a promu l'exposition commerciale d'Indonésie 2016 au Qatar. La délégation indonésienne a rencontré le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Qatar, KWCI, Mohamed bin Ahmed bin Tawar Al-Kouari, et des hommes d'affaires au bureau de KWCI. Le ministre conseiller de l'ambassade d'Indonésie à Doha, Boy Darmawan, cité par Antara de Londres, a déclaré lundi qu'à cette réunion, il a exposé le potentiel et l'investissement des entreprises et a invité les hommes d'affaires qataris à assister à l'exposition commerciale de l'Indonésie 2016 tenue en octobre. Pendant ce temps, Mohamed Al-Kouari a bien accueilli les délégations économiques et commerciales de l'Indonésie. Il a affirmé la nécessité des hommes d'affaires indonésiens de renforcer les relations économiques et commerciales entre l'Indonésie et le Qatar en explorant directement les possibilités économiques et commerciales au Qatar. L'ambassadeur d'Indonésie au Qatar, Muhammad Basri Sidihabi, avec le professeur de l'Université de la Défense, ont inauguré l'ouverture de supermarché de l'Indonésie, Source of Fortune, dans la ville d'Al-Khor, à environ 80 km de la capitale du Qatar, Doha. Le ministre conseiller de l'ambassade d'Indonésie à Doha, Boy Darmawan, cité par Antara de Londres, a déclaré lundi, ce supermarché était le développement des affaires de l'entrepreneur d'Aceh en tant également la figure de diaspora indonésienne Mahdi Musa en coopération avec l'homme d'affaires du Qatar, Jumah Ismail Al-Bunain. L'ambassadeur Muhammad Basri a expliqué que l'ouverture du supermarché faisait partie de la mission de l'augmentation des exportations. Ce supermarché est également une place pour les entrepreneurs qui veulent élargir le marché au Qatar. Il espère que l'ouverture de ce supermarché peut améliorer la diplomatie économique au Qatar et intensifier la coopération économique entre l'Indonésie et le Qatar dans les domaines du commerce, du tourisme et de l'investissement. Ceci est conforme aux directives du président Joko Widodo qui donne la priorité à la diplomatie économique dans les relations entre les deux pays. Des touristes étrangers de l'Europe qui se rendent à Bali en été de cette année ont augmenté de 59,4% à partir de 76 822 personnes en juin 2016 et a augmenté de 122 455 personnes en juillet 2016. L'observateur touristique Dewa Nyoman Putra à Denpasar mardi a dit que l'augmentation des arrivées de touristes a montré les efforts du gouvernement et l'industrie touristique de promouvoir l'Indonésie, en particulier Bali, vers la région européenne n'est pas vaine. L'augmentation du nombre de touristes est aussi l'impact de la politique gouvernementale en Indonésie de donner des visas gratuits à un certain nombre de pays, y compris le soutien de scruté propice. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chères auditrices et chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie. Pour la suivante, voici le magazine culturel. Nous poursuivons avec Apprendre l'Indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers amis, voici le magazine de la culture, édition de mardi. Pour cette édition, on va vous présenter le site touristique en province d'Aceh. Écoutez toujours notre émission sur www.voi.co.id ou par onde courte à 902 kHz. Chers amis, le ministère du Tourisme propose trois programmes de développement touristique à Aceh. Ce sont Aceh comme la destination mondiale de halal, Sabang des vins, meilleure destination touristique des marines du monde, et le lac de l'Autawar devient meilleure destination d'aventure du monde. Pour encourager le développement du tourisme d'Aceh, il y a certaines choses qui sont la préoccupation du ministère du Tourisme, entre autres le développement des ressources humaines en effectuant la certification pour les guides touristiques et planificateurs de tours, la formation des opérateurs de rafting et le développement d'écoles supérieures pour le tourisme. Mes amis, vous avez tout à l'heure, il y a des programmes touristiques, l'un des développements touristiques à Aceh et le développement du lac Air Tawar qui possède le grand potentiel. Dano Air Tawar ou lac Air Tawar se situe au montagne Gayo, la préfecture Aceh centrale. À l'ouest, il y a la ville de Takengon, la capitale de la préfecture. L'ethnie de Gayo appelle ce lac comme Danau Air Tawar. Sa superficie est plus de 5400 hectares carrés. Ces amis, le lac de l'Autawar est aussi appelé la mer car il est vaste et grand. On appelle Air Tawar ou l'eau douce car il n'est pas salé. Pour les gens de Gayo, le lac de l'Autawar est très principal. Autre comme le site touristique, ce lac est aussi comme source d'eau potable pour les habitants. Ce lac et ses alentours possèdent aussi la grande faune et flore. L'une des faunes est le poisson endémique appelé Depik qui vivent dans le lac. Pour visiter le lac de l'Autawar, il faut d'abord à Bandar Aceh en transportant l'avion puis prendre le bus pendant 8 jusqu'à 9 heures ou bien d'aller à la ville de Medan en province de Sumatra du Nord. De cette ville, il faut 3 à 4 jours avec le bus pour y arriver. Au site de la lac, on ne paye rien. Ces amis, la voie de l'Indonésie à Jakarta, le lac de l'Autawar Air Tawar est si beau car il y a deux collines côte à côté de ce lac. Au sud, on peut voir les activités actuelles des habitants, pêcher aux champs de la rizière. On peut aussi faire le bateau pour entourer au fer de vélo ou le moto. On vous suggère goûter la gastronomie de Takengon, le poisson de Depik, ou bien boire le café de Gayo qui est très connu dans le monde. Autour du lac Air Tawar, on peut trouver facilement les hébergements pour passer la nuit les touristes. Mes amis, c'était le magazine de couture qui raconte sur le lac de Danau Air Tawar à Aceh. Merci de votre attention et au revoir.
Thank you.
comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Allez apprendre l'indonésien.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et qui vous guide de parler l'indonésien. Le sujet aujourd'hui est Menunggu teman. Je répète, Menunggu teman, en français, attendre une amie. D'abord, je vais introduire le vocabulaire et les expressions reliant au sujet aujourd'hui. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Menunggu. Menunggu. En français, attendre. Teman. Teman. En français, ami. Pulang. Pulang. En français, rentrer. Naik apa? Naik apa? En français, prendre quoi? Membawa mobil. Membawa mobil. En français, prendre la voiture. Kereta api. Kereta api. En français, le train. Bersama-sama. Bersama-sama. En français, ensemble. Station kereta api. Station kereta api. En français, la gare. Di mana? Di mana? En français, où? Kedai kopi. Kedai kopi. En français, le café. Di seberang. Di seberang. En français, en face de. Toko buku. Toko buku. En français, librairie. Hari ini. Hari ini. En français, aujourd'hui. Saya. Saya. En français, je. Dekat. Dekat. En français, près de. Apothèque. Apothèque. En français, pharmacie. Membeli. Membeli. En français, acheter. Obat. Obat. En français, médicament. Kecil. Kecil. En français, petit. Ngobrol. Ngobrol. En français, bavarder. Makan. Makan. En français, manger. Maintenant, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre Menunggu teman. Menunggu teman, ou en français, attendre une amie. Et comme d'habitude, je vais prononcer lentement, phrase par phrase, deux fois. C'est une conversation entre Novi, A, et Mary, B, sur le téléphone. A, Mary, hari ini kamu pulang naik apa? Mary, hari ini kamu pulang naik apa? En français, Mary, aujourd'hui, que vous prenez-vous pour rentrer chez vous? B. Hari ini saya tidak membawa mobil. Hari ini saya tidak membawa mobil. En français, aujourd'hui, je ne prends pas de voiture. Saya pulang naik kereta api. Saya pulang naik kereta api. En français, Je rentre chez moi en train. A. Kita dapat pulang bersama. Kita dapat pulang bersama. En français, nous pouvons rentrer ensemble. Saya tunggu kamu di stasiun kereta api. Saya tunggu kamu di stasiun kereta api. En français, je vous attends à la gare. B. Baiklah, kamu tunggu saya di mana? Baiklah, kamu tunggu saya di mana? En français, très bien, vous attendez-moi où? A. Saya tunggu kamu di kedai kopi. Saya tunggu kamu di kedai kopi. En français, je vous attends au café. Di seberang toko buku. Di seberang toko buku. En français, en face de la librairie. B. Apakah di dekat kedai kopi ada apotek? Apakah di dekat kedai kopi ada apotek? En français, y a-t-il une pharmacie près du café? Saya mau membeli obat. Saya mau membeli obat. En français, je veux acheter des médicaments. A. Di sana ada apotek kecil. Di sana ada apotek kecil. En français, il y a une petite pharmacie. Kamu bisa membeli obat di sana. Kamu bisa membeli obat di sana. En français, vous pouvez acheter des médicaments là-bas. B. Baiklah, di kedai kopi kita bisa ngobrol sambil makan. Baiklah, di kedai kopi kita bisa ngobrol sambil makan. En français, très bien, au café nous pouvons bavarder en mangeant. Setelah itu, kita pulang. Setelah itu, kita pulang. En français, après cela, nous rentrons chez nous. Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'Indonésien de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous et à demain.
Chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs dans le monde entier. Rencontrons-nous dans le magazine musical, un programme qui présente les musiques indonésiennes, soit dangdut et pop. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voe.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une chanteuse de dangdut, Eri Susan. Pour ouvrir notre rencontre, voici Eri Susan avec sa chanson intitulée Ne pas perdre mon temps. Bonne écoute.
Sudahlah aku yang menyerah, ku lelah berharap padamu. Bila kau tak cinta padaku, jangan buang waktuku. Sudahlah aku yang menyerah, ku lelah
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Jesus San intitulée « Ne pas perdre mon temps » lancée en 2005 dans un album intitulé « Jesus San ». Cette chanson raconte un amant qui est fatigué d'attendre une expression d'amour d'un compagnon. Il a finalement pris la décision de ne plus perdre de temps à l'attendre. Juste. Une chanson composée par son ami nommé Adi Balcharoul a différents genres, pas dans d'autres classiques, mais ce genre suit le développement de temps. Le genre de musique a la tendance de dans d'autres contemporaines. La chanson intitulée « Ne pas perdre mon temps » a été bien acceptée à ce moment par les amateurs de la musique dans le pays. De plus, grâce à cette chanson, Eric Soussan a été nominé comme meilleur chanteur de dangdut 2006 de la version Anugerah Musique Indonesia. Dans l'album intitulé « Eric Soussan », il y avait quelques autres chansons qui ont été bien acceptées par les amateurs de la musique de dangdut. L'une des chansons intitulée « Estuaire amoureux de mer » composée par Adi Balcharoul. Cette chanson raconte l'amour d'une mère pour son enfant. Bon, chers auditeurs, avant de bien connaître Eric Soussan, voici sa chanson suivante intitulée « Estuaire amoureux de mer ». Bonne écoute.
Thank you. kasih dan sayang, apapun pasti kau lakukan untuk diriku yang kau sayang.
Cheikh Jerita, l'album intitulé Exsusan est l'un des meilleurs albums lancés par Exsusan, en plus le premier album intitulé Ivre d'argent en 1992. Cet album contient des chansons de dangdut de divers genres, à savoir dangdut melayu, dangdut pur, dangdut moderne, jazz dangdut et dangdut alternatif. La chanson d'Exsusan intitulé Pluie est l'une des chansons de dangdut moderne qui raconte quelqu'un qui est inquiet de l'arrivée de son amant. Outre le chant en solo, dans cet album, Exsusan a chanté ensemble avec Adi Balsahrul la chanson intitulée Patanté. Cette chanson raconte quelqu'un demandant des preuves amoureuses à son amant. La musique de cette chanson est unique, combinaison de dangdut et la musique du Moyen-Orient. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, nous vous présentons les deux chansons de Exsusan intitulées Pluie et Patanté. Bonne écoute et à bientôt! Chers auditrices et chers auditeurs, c'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.